Pourquoi fallait-il écrire sur Homère en 1940? En 1940 et en 1941 paraissent deux parties d'un très important article sous un pseudonyme dans une revue publiée dans la zone libre de la France à Marseille, Les Cahiers du Sud, et signée Émile Novis. Qui était cet Émile Novis, N-O-V-I-S? Eh bien, c'était le pseudonyme, l'anagramme quasi parfait du nom de Simone Veil, la philosophe, la disciple d'Alain, mais qui renonça au pacifisme d'Alain que celui-ci exprimait après la Première Guerre mondiale, dans un livre intitulé « Mars ou la guerre jugée », et Simone Veil donc publie en deux livraisons dans les Cahiers du Sud un article extraordinaire intitulé « L'Iliade ou le poème de la force ». L'Iliade ou le poème de la force qui répond au fond 25 ans plus tard à « Mars ou la guerre jugée ». Dans « Mars ou la guerre jugée », Alain pensait que le jugement libre et éclairé des démocrates pouvait suffire à éviter la guerre une fois pour toutes. Les dieux surgis de l'imagination passionnelle, Mars, le dieu de la guerre, pouvait être terrassé par la raison. Mais Simone Veil, entre 1940 et 1941, et elle allait décéder bientôt en Angleterre, en pleine Seconde Guerre mondiale, Simone Veil voit les choses plus durement. La guerre fait partie plutôt de l'empire de la nécessité sur les hommes, d'une forme de la nécessité brutale sur les hommes, ce qu'elle appelle la force, qui détruit l'âme humaine. Et pour y résister, il faut toujours faire entrevoir un autre rapport à la nécessité qui y voit une relation morale qui y voit la lueur du bien et de la justice. Mais pour cela, encore faut-il décrire la radicalité de la guerre et de la force, et c'est ce qu'elle fait dans l'Iliade ou le poème de la force, où elle reprend la lecture d'Homère, comme le fait une autre de ses contemporaines de manière différente, peut-être moins radicale, Rachel Bespalov au même moment. Mais Simone Veil, elle, voit dans l'Odyssée et surtout dans l'Iliade d'Homère une description réaliste de la guerre, de sa destruction des hommes, la manière dont un couteau sur la tempe, dit-elle, fait d'un homme une chose, au bon pouvoir de celui qui le domine, qui détruit l'âme au point d'en faire un objet, ou un ver tremblant de peur devant la réduction opérée par la force. Mais ce qui fait la grandeur de l'Iliade, dit-elle, c'est que, malgré cette description radicale, ou plutôt à cause de cette description radicale de la violence et de la force des humains, Homère teint aussi son poème d'universel, d'une souffrance universelle. Il ne prend pas parti, les uns et les autres vont tour à tour être soumis par la force. La force réduit les hommes à des choses, mais non seulement les vaincus, mais aussi les vainqueurs, non seulement ceux qui sont à la pointe de l'épée, mais ceux qui en tiennent le manche. Ainsi, Homère imprègne son poème non seulement de la radicalité, de la réalité de la guerre, mais aussi d'une résistance morale, d'une amertume universelle, dit-elle. Ainsi, il faut retrouver ce génie d'Homère. Rien de ce qu'ont produit les peuples d'Europe, dit-elle dans la dernière phrase, ne vaut le premier poème connu qui soit apparu chez l'un d'eux. Ils retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. Il est douteux, conclut-elle, que ce soit pour bientôt. Il fallait donc bien relire Homère non seulement pour la réalité du mal, mais aussi pour l'imprégnation par la lueur du bien, la nostalgie de la joie et de la justice, la nostalgie de l'amour et même des bains chauds, dit-elle en pensant à Andromaque, mais aussi pour ce réalisme de la guerre contre lequel il ne faut jamais se leurrer et céder.